mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Café Dance New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs.
Bien, nous parlons de l'amélioration de la prise en charge médicale dans, au niveau dans nos hôpitaux. Vous savez, à RDC, de nombreux cas de décès sont enregistrés dans les grands hôpitaux, faute de bonnes prises en charge médicales. Pour certains experts du secteur médical, cela est dû au manque d'équipement et parfois du personnel qualifié pour administrer les soins appropriés. Que faut-il faire pour améliorer le système sanitaire congolais? Nous avons aujourd'hui, nous recevons dans ces studios, nous avons l'honneur de recevoir Dr Antoine Chimpi, il est spécialiste en gastro-entérologie. Voilà, spécialiste en maladie de l'appareil digestif, l'estomac, foie, pancréas, intestin, hémorroïdes. Il a évolué pendant longtemps en France et maintenant il est revenu, il est rentré au pays. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, dites-nous, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui la prise en charge n'est plus bonne des malades dans, au niveau dans les grands centres hospitaliers du pays?
Alors, bonjour, merci de m'inviter en tout cas. Je ne sais pas si la prise en charge n'est plus bonne. En tout cas, et la prise en charge médicale dans notre pays pose problème. Lorsqu'on est acteur dans le domaine ici, ou surtout quand on vient de l'extérieur, on connaît quel était l'état de notre pays il y a quelques années. On est forcé de constater que les choses se dégradent et continuent à se dégrader.
Et quelles sont les raisons à la base?
Il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui interviennent là-dedans. Il y a bien entendu au niveau des ressources humaines, le personnel, le médical et soignant, on va peut-être en parler. Il y a les structures, c'est-à-dire les locaux, ce qui doit accueillir le patient lorsqu'ils en ont besoin. Et il y a le moyen, un équipement qu'il faut allouer à ce système de santé que nous devons construire pour notre pays. Et bien entendu, quelle est la part, si je veux dire, budgétaire, en fait, la part financière qui est allouée pour essayer de faire améliorer cela. En fait, en gros, la question que je suis amené à me poser, c'est est-ce qu'il y a un projet médical, un projet de santé pour notre pays à court, moyen ou long terme? Quel est notre horizon? Qu'est-ce que nous sommes fixés comme objectif dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans pour la prise en charge médicale dans notre pays?
Voilà, ce sont là toutes les questions qu'il faut se poser.
Hein. Exactement.
Alors, vous avez dit les causes sont au niveau des ressources humaines, les locaux, les moyens en équipement, le budget aussi. Parlons d'avoir des ressources humaines. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a plus assez de personnel qualifié dans nos hôpitaux?
Alors, je vais vous répondre par un petit exemple. Nous sommes tous des malades potentiels, comme vous le savez. Et donc, le rôle d'un hôpital ou d'une structure, c'est de soigner les gens. C'est basique. Et soigner les gens suppose que le jour où on a mal quelque part, qu'on a une douleur dans le ventre, qu'on a une douleur au niveau d'une articulation, ou qu'on a vomi du sang, ou parce qu'on a des maux de tête qui ne passent pas, on va franchir une porte et on est en attente de rencontrer quelqu'un qui est à votre écoute et qui connaît le domaine qui vous concerne. Et donc là, il y a premièrement un problème de formation du personnel. J'ai pas dit qu'ils ne sont pas formés, mais est-ce qu'on a le personnel adapté pour notre terrain, donc pour accueillir les gens? Là, il y a l'administratif qui va accueillir le patient, qui va l'orienter, et pour qu'il puisse être probablement vu d'abord par une infirmière et vu par un médecin, d'abord généraliste probablement, mais après orienté vers celui qui est le mieux approprié pour résoudre le problème. C'est un raisonnement de base qu'il faut faire pour mieux orienter les gens déjà. Et au niveau de la formation, effectivement, vous êtes sans ignorer la multitude de centres de formation qu'il y a maintenant dans notre pays, ce qui n'est pas un mal en soi. À partir du moment où il y a un projet commun, national, qui est bien édicté et donc contrôlé de façon à évaluer si tout le monde répond aux critères qu'on s'est fixés. Est-ce qu'un docteur en médecine générale, est-ce qu'il a eu la formation qui requise de façon que le jour il a un patient devant lui, il sait établir les diagnostics et donc le bon traitement? Est-ce que l'infirmière qui est en face, qui reçoit le patient, est-ce qu'il a les premières attitudes à avoir devant un patient potentiel et donc mieux l'orienter? C'est du basique. Il me semble qu'il faut qu'on le révisite dans notre pays. Et là, je fais allusion à des cas concrets.
Voilà. Bien, vous êtes diplômé de la faculté de médecine de Kinshasa en 1987 avant d'aller vous spécialiser en France au travers d'une bourse d'excellence et actuellement vous êtes détenteur d'ici autre diplôme universitaire. Vous exercez en France depuis 24 ans dans le secteur privé et public. Aujourd'hui, vous êtes revenu au pays. Vous avez fait ce constat. Donc la première chose, c'est qu'on doit la formation. On doit mettre un point sur la formation, revoir notre système de formation des ressources humaines, si on peut le dire ainsi.
Exactement. Depuis deux ans, en fait, je reviens. J'avais pris l'option de revenir au pays tous les trois mois, faire ce qu'on appelle de l'humanitaire, c'est-à-dire venir dans différents hôpitaux jusque-là de la capitale, mais avec objectif d'aller en province, et donc voir différents cas. Mmh. J'ai donc été amené, pas une seule fois, à voir de patients ou des enfants. Certains étaient hospitalisés depuis deux, trois semaines, sans diagnostic, alors que le cas de ce patient ou de ce jeune enfant ne nécessitait pas d'examen particulier, des radios particulières. Simplement, l'examen clinique, qu'on apprend à tous les médecins, permettait d'établir le diagnostic. Ce qui peut être embêtant, c'est que ces cas, ces différents cas, et j'ai des exemples concrets, qui avaient attendu peut-être deux ou trois semaines en hospitalisation, ce qui génère un coût d'hospitalisation, ils avaient d'autre part leur pathologie, leur maladie qui s'était aggravée entre-temps. Et la famille s'était mise à l'idée que voilà, on nous a dit qu'il a tel problème, ce problème-là, on ne peut pas le résoudre, et donc on s'attendait presque au décès de l'enfant. Et quand j'avais, entre autres, vu certains de ces enfants, force était de constater que à la seconde, vous pouvez établir un diagnostic de la maladie, d'une maladie qui est curable parfois au prix des mesures très simples. Donc là, on ne peut pas contester qu'il y a un problème de formation.
Oui.
Voilà.
Hein? Et l'autre, c'est parce que les gens passent, les diplômes s'achètent ou la qualité de la formation a baissé ou qu'est-ce qui se passe hein?
Et j'irai peut-être pas jusqu'à dire que achète des diplômes. J'ai pas assisté à un achat de diplôme. Oui. En tout cas, la compétence sur terrain, lorsqu'on est l'honnêteté, la sincérité nous force de constater qu'il y a un problème. Il y a un problème de peut-être, je ne sais pas, de la formation actuelle des jeunes générations sans mettre l'amalgame. Nous avons des enseignants compétents. Moi, j'étais formé à l'université Kinshasa ici. Mmh. Dieu sait que quand nous arrivons en Europe et que nous sommes testés, on passe par des épreuves, ils vérifient nos compétences. Je peux vous dire que globalement, les médecins congolais sont très bien cotés, en tout cas en France où je travaille.
Et donc, même dans nos pays, on entend même en Afrique du Sud, ils sont mieux cotés.
Exactement.
Très bien cotés.
Tout à fait. Mmh. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques années? Vraiment, on doit se poser des questions parce que ces collègues qui sortent des universités qui sont multiples, est-ce qu'elles sont contrôlées? Est-ce que le programme de formation est unifié? Est-ce qu'il y a des moyens d'évaluer la compétence des collègues qui sortent? Il me semble qu'il faut vraiment, c'est un point que nous ne devons pas négliger. Je sais que ça dérange que quelqu'un, et a fortiori un médecin qui le dise, un confrère, je ne le dis pas par idée de polémique. Je pense que je passe par des éléments concrets qui nous forcent à revoir ce problème, ce pont, parce que derrière, c'est nos enfants, nos cousins, nos familles, nous-mêmes, peut-être demain, qui pourrions être malades et on aura besoin d'être pris en charge par quelqu'un qui a des bases compétentes. Voilà.
Deuxième point, il s'agit des locaux, les infrastructures.
Voilà,
exactement. Ça également, ça pose problème.
Ça pose problème. Je lisais en préparation de l'émission, je relisais le plan de budget de la santé qui avait été donc voté au niveau de l'Assemblée. Donc je parle de notre pays, le Congo, pour 2015. On pourra revenir sur le budget. Et dans la part du budget, il y avait trois grandes lignes. C'était la construction et la réhabilitation de structures, donc des locaux. Mmh. Et entre autres, il y avait la mécanisation et les équipements des centres de santé. C'était les trois points qui étaient retenus pour définir le budget de la santé. Il n'y a pas besoin de faire de grands efforts, de grandes distances pour faire un petit tour dans les hôpitaux chez nous pour constater qu'il y a véritablement un problème. Il nous arrive quelquefois à des réunions à l'étranger qu'on nous dise heureusement qu'il y a eu quelques bâtiments construits il y a quelques années, des bâtiments solides, parce que certains de ces bâtiments seraient aujourd'hui par terre. Je ne sais pas où serions-nous.
Généralement, les grands centres hospitaliers, c'est des bâtiments hérités de l'époque coloniale qui sont jusqu'à aujourd'hui.
Je vous l'ai laissé dire, parce que vous avez très bien compris à quoi je voulais en venir. Depuis, il y a eu quelques efforts probablement trop inférieur par rapport à l'attente du pays. La démographie continue à augmenter, donc le besoin en santé, prioritaire pour une population, augmente aussi. Est-ce que la construction des locaux, la réhabilitation des locaux, l'entretien des locaux, est-ce que ce programme a suivi? Je pense qu'il y a, là, du côté-là, il y a un déficit, voire une dégradation, ce qui fait que globalement, on se rend compte que la médecine congolaise, qui était quand même une référence il y a 20-30 ans, notamment pour l'Afrique centrale, je me souviens avoir reçu des patients qui venaient des pays voisins pour venir se faire soigner au Congo, ben nous avons petit à petit perdu ce rôle de locomoteur qu'on avait au niveau africain. Et donc les locaux, il faut un programme probablement pour les réhabiliter et les entretenir. Il suffit pas de le faire, il faut les entretenir.
Entretenir aussi.
Voilà.
Nous avons un auditeur, le premier auditeur dans cette émission, Dokis Makungu, il nous appelle des Kindu dans la province du Maniema. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081-890-6394.
Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, merci d'écouter la radio Capi. Nous parlons aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour améliorer la prise en charge médicale dans les hôpitaux. Dokis Makungu, vous êtes à Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis bonjour aussi à l'invité.
Bonjour, monsieur Dokis.
Quelle est votre question?
Avant que je donne, au moins je pose ma question, je commencerai d'abord à rectifier mon nom. Ce n'est pas Dokis. Mais plutôt c'est Sokis. Makungu Soko Josué Kindu Omaniema.
Tati, il s'appelle Sokis et non Dokis.
Bonjour monsieur Sokis alors.
Allez-y.
Oui. Je suis un peu ravi de joie par votre sujet parce que moi-même je suis au lit de l'hôpital. À ces temps que je vous appelle.
Ok.
Je suis à l'hôpital. Oui, je suis au lit de l'hôpital. Vraiment, par rapport à tout ce que l'invité vient de balayer, c'est très efficace et c'est très important. Parce que moi-même, je suis en train de me comparer là où je dors et le lit où je suis en train de dormir à l'hôpital, vraiment une grande différence dans laquelle je risquerais encore de continuer de tomber toujours de fenêtres malades. Au lieu que je sois guéri, ça c'est la première observation. Et deuxièmement, là je suis en train de vous décrire au moins l'hôpital dont je suis, au moins on est en train de me soigner. Deuxièmement, des moustiquaires même que nous sommes en train de couvrir pour dormir. Mais des trous, des saletés, et des gars comme ça, on ne comprend pas. Et s'il faut pas aussi les problèmes des ressources humaines, les faits là, si le mec passe seulement une seule fois, si il va passer au moins 6 fois, pour te demander seulement comment tu vas, disons bien 500 fois. Et c'est-à-dire s'il passe les 6 heures 500 fois, 8 heures 500 fois, et puis 11 heures 500 fois, 13 heures 500 fois, c'est-à-dire, en fin de compte, tu trouveras avec des factures que tu ne sauras même comment expliquer. Ça, c'est un. S'il faut encore ajouter, même pas un médicament pour vous dire que non, c'est ça le médicament que l'hôpital vous dose de droit pour qu'il comprenne comment vous soignez. C'est-à-dire, tout, on l'achète à l'extérieur. On l'achète à l'extérieur. C'est-à-dire, on ne sait pas maintenant quelle est l'importance d'aller à l'hôpital. Je ne trouve même pas l'importance d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour améliorer toutes ces conditions-là, au moins de prendre en charge des malades? Parce que nous souffrons. On ne fait rien à l'hôpital. Moi-même, je suis à l'hôpital. Vraiment, nous sommes en train d'observer. Vaut mieux de rester à la maison que de venir à l'hôpital et d'attendre de mourir.
D'accord. Merci, Sokis. Blanchard Luana, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Bonjour Blanchard.
Oui, ma question est de savoir est-ce que la subvention médicale par le gouvernement congolais ou par certaines structures non étatiques est-elle à tirer l'amélioration de la prise en charge médicale?
Bien, merci. Docteur Antoine, vous avez suivi Sokis qui est à l'hôpital en ce moment. Il nous écoute à partir d'un hôpital de Kindu et il a décrit, il vous a fait une description des lieux où il se trouve. Qu'est-ce que vous pouvez le dire?
Exactement. On a en fait allusion tout à l'heure aux ressources humaines, aux locaux. Le point qui allait suivre, c'était les équipements au sein d'un hôpital. Le médecin, les soignants, donc les paramédicaux, nous avons beau avoir une formation, avoir les compétences qui sont importantes, indispensables. Encore faut-il que nous ayons le matériel, les équipements pour accueillir le patient et donc le prendre en charge. Et dans les équipements, je pense que tout hôpital, comme toute entreprise, c'est peut-être qu'un terme qui va vous choquer, on va peut-être en parler à la fin, doit avoir un fonctionnement. Il doit avoir de charte, parce que ce qu'on n'a pas dit dans ma présentation, je suis médecin en France, mais depuis une dizaine d'années, je suis directeur médical d'un hôpital qui emploie 440 personnes, vous voyez.
Donc
vous
êtes en France.
Donc on est obligé de s'occuper de la prise en charge médicale, mais l'hôpital étant une entreprise, doit aussi avoir une organisation pour l'achat, l'entretien de matériel. Et l'entreprise, l'hôpital, a des sources de revenus. Ça va peut-être faire un pont avec la troisième question, a des sources de revenus. Il y a l'activité qu'il a à faire au quotidien. Ils soignent les gens. Ces gens qui payent leur consultation, qui payent le prix de l'échographie ou la radiographie thoracique, ça a un coût qui aura été défini, un accord pour un hôpital public, un accord avec l'État. Et cette activité génère une somme qui fait un revenu pour l'hôpital. L'État ou les organisations non étatiques, comme a évoqué M. Blanchard, ils ont une participation qu'on appelle subvention, qui est définie et pour venir en appui à l'activité de l'hôpital, afin de limiter le coût que le prix, par exemple, des actes pour la population qui n'a pas beaucoup de moyens.
C'est comme ça que ça se passe aussi dans l'hôpital que vous dirigez
Exactement.
France.
Je vous suis en train de vous décrire comment ça se passe dans les hôpitaux, y compris dans les pays développés. Et vous voyez bien que ces formules-là, ils n'ont aucune originalité, ils peuvent s'appliquer chez nous. C'est cet ensemble qui va faire qu'il y a...
Vous avez des subventions à quelle hauteur?
C'est un pourcentage. Actuellement, pour vous donner un exemple concret, en France, les hôpitaux fonctionnent à ce qu'on appelle à l'activité. C'est-à-dire, on sait que chaque année, vous pouvez recevoir combien de patients pour la consultation, combien de patients pour une opération X, Y, et on fait un total d'une somme. Là, on va dire, mettons l'exemple que je vais prendre un chiffre rond, $1,000, l'activité globale. On va voir, de $1,000 que vous amenez, votre fonctionnement nécessite pour l'entretien de matériel tel montant, pour payer les gens, c'est en général 60-70% tel montant, on va faire le total. Si vous avez $1,000 de revenus par rapport à l'activité de l'hôpital, mais que l'entretien de l'hôpital, la paye les salaires des agents, l'achat de médicaments, le total donne par exemple $1,200, vous voyez qu'il y a une différentielle de $200. L'État va venir en subvention de $200, de façon que l'hôpital puisse toujours avoir ces $1,200 et donc travailler à l'équilibre. En fait, il faut qu'on change, il faut qu'on arrête de penser que l'hôpital est une dépense. Une des erreurs, je pense, de nos pays africains, c'est de penser que l'hôpital, la santé, est une dépense. Alors qu'il y a des pays, comme l'Inde par exemple, ont transformé leur activité médicale à une source de revenus pour le pays. Parce que ça devient une activité d'excellence, on soigne très bien les gens, donc ça va générer des gens vont venir sur chez vous.
Oui.
Exactement, ça fera que des hôpitaux équilibrent.
Voilà. Félicien nous appelle de Kinshasa. Ismaël est à Lubumbashi, Saint-Forien Bidoya, à Kananga. Félicien, on commence avec vous. Félicien Kindula de Kinshasa, bonjour.
Bonjour aujourd'hui. Bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Je pense qu'il a déjà répondu à une partie de ma question, parce que je voulais savoir comment ça s'est fait que... En France, là où il est, quand un malade arrive à l'hôpital, directement, on le prend en charge, on commence à s'occuper de lui, sans lui demander l'argent. Et alors que ici chez nous, même si vous arrivez dans un état grave, même si on vous a ramassé tombé sur la route, on vous amène à l'hôpital, et tant que il y a personne pour payer ceci, payer cela, on vous dépose là par terre et vous pouvez mourir là jusqu'à ce que votre famille arrive, sinon vous mourrez. Alors comment est-ce que chez nous on n'arrive pas aussi à faire comme on le fait en France ou dans d'autres pays? Ça c'était la première question. La deuxième question, mais est-ce que le fait que nous payons nous ici dans des hôpitaux, quand nous voyons l'état dans lequel se trouvent nos hôpitaux, les conditions de travail, les conditions de vie, est-ce que vous ne pensez pas qu'on paye trop, mais le résultat est négatif?
D'accord, merci. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama.
Bonjour, Ismaël.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ok, vraiment, en première médecine, ce que je vis en premier lieu, que l'hôpital était un lieu de pauvres. De ce fait que le pauvre était pris en charge de plus que même de riches. Mais aujourd'hui, comme les constats, parce que je suis au sens des constats, qu'est-ce que moi, puis j'ai constaté? J'ai pu voir que ceux qui sont pris en charge plus à l'hôpital, ce sont ceux qui ont des moyens. Comme les constats à un grand hôpital ici, il se peut qu'il y a même un service bien organisé qu'on appelle Kasapa. Vous remarquez qu'en prison, quand on appelle Kasapa ici, c'est les conditions sont précaires. Alors pour y accéder, c'est tout à fait difficile. Et cette personne n'a pas besoin de soins plutôt qu'on peut souhaiter sa mort. Et pourtant, c'est à un hôpital où on sort de vie. Maintenant, la question que je devais initier pour poser à l'invité est celle-ci. L'éthique, ils ont commencé avec les démarches pour savoir quels sont des hôpitaux qu'on prenne mieux en charge le malade. Combien de pourcentages qu'ils ont déjà réussi et à quel succès. Si on prend sur la deuxième question, entre les hôpitaux privés et les installations publiques, soit les installations de l'État, lesquels ils peuvent un peu diagnostiquer les résultats du malade qui y entre et qui sort, et avec quel pourcentage de la guérison. Merci beaucoup.
Bien, Symphorien Bidoya de Kananga, dans la province du Kassai-Occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Bonjour, docteur, je viens d'inviter.
Bonjour, Symphorien.
On vous écoute.
Bon, je vais d'abord commencer par un constat. Bon, dernièrement, sur Radio Gapi, on a suivi un débat. On était en train de parler de docteur. Pour accéder, donc, pour commencer à faire un décès comme docteur, il faut accéder à l'ordre des médecins. Mais il y a un constat même que j'ai fait surtout dans notre ville de Kananga. Comme hier, vous avez les problèmes qui touchent tous les Congolais du chômage. Une fois qu'un médecin ou un infirmier a terminé et il n'est pas engagé, il cherche aussi à avoir une petite maison dans n'importe quelle condition. Il achète quelques médicaments et puis il nomme ça un centre de santé. Et les gens, surtout les pauvres dans des villages qui n'ont pas les moyens d'accéder dans des grands centres de santé, dans des grands hôpitaux, ils partent dans ces histoires-là et ça peut même causer la mort. Nous avons un cas palpable ici, un enseignant, donc sa femme, bon, il était malade, sa femme n'avait pas de l'argent, il l'a amené dans un petit centre de santé là, il n'y avait pas de médicaments, il a fait beaucoup de jours là-bas et puis quand on l'amène dans un grand hôpital, c'était déjà tard et il était mort. Bon, maintenant, je demande à l'invité, qu'est-ce qu'il faut créer un centre de santé en République démocratique du Congo? Parce que les centres de santé, c'est comme s'il n'y a pas une loi qui interdit la création abusive. Il y a un pilulement vraiment des centres qui causent souvent la mort des populations les plus démunies. C'est ça ce que je voulais demander. Merci.
Bonne continuité. Bien. Merci, ingénieur Arnold. Vous êtes Arnold Mangoyo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Arnold.
Bonjour, monsieur Jourdi.
Quelle est votre question?
Merci. J'ai une petite question à poser à notre invité. Est-ce que notre invité peut nous dire? Parce que le médecin, tout le temps, déplore et déconseille l'automédication. Alors, je voudrais un peu qu'il nous dise, d'après lui, qu'est-ce qui est à la base de l'automédication chez la plupart de nos populations? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très en prise maintenant là. Est-ce qu'il peut nous dire, lui, en tant que médecin, parce qu'il a comparé le système médical de France par rapport en Afrique, ainsi de suite. Alors, mais chez nous, franchement, les gens préfèrent l'automédication. Est-ce qu'il peut nous dire sincèrement qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène de l'automédication et comment enrayer ce phénomène-là? Voilà ma petite préoccupation.
Bien, merci. Michel Umpenemna, vous êtes à Matadi, dans le Bas-Congo. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, monsieur Michel.
On vous écoute.
Oui, j'allais juste appuyer et confirmer tout ce que l'invité est en train de dire. J'allais l'appuyer par un témoignage. J'étais à Kulungongo. Mm-hmm. Il y a un ami, son frère est médecin. Alors, après quelques temps, il s'est décidé d'aller vivre en Angola. Mais ce qui est étonnant, 6 mois après, il a appelé son frère qui est à Kunungongo, en disant « Je regrette toutes les années que j'ai eu à passer au Congo. Il fallait juste, après mes études, que je puisse quitter. Parce que je sens maintenant que je me retrouve. » Alors, la question que je pouvais poser à l'invité, quel conseil peut-il donner au gouvernement qui est en train de perdre une main-d'œuvre de qualité?
D'accord. Mao Vakala, vous êtes à Matadi, dans le Bas-Congo. Bonjour. On vous écoute.
Bonjour, monsieur Mao.
Bonjour, monsieur.
Quelle est votre question?
Ma préoccupation est celle-ci. Et nous constatons qu'il y a une différence entre les options privées et les options de l'État. Nous, ici, à Matadi, précisément, je me demande pourquoi, quand vous allez dans les options privées, il y a une différence de facturation. Tandis que dans les options, l'État, ce qui concerne l'État, il y a une option très élevée, tandis que la population est en train de se séparer. Où pourrons-nous aller dans les options privées, puis dans les options de l'État? Et c'est là qu'on comprend que les options de l'État, vous entrez à l'État. Donc, il y a une condition vraiment. Au lieu que vous allez prendre la guérison, mais vous êtes parti en comprendre la malade.
D'accord, on a compris. Merci à tous les auditeurs pour toutes ces questions. Donc voilà, ces sujets intéressent pas mal les auditeurs, docteur Antoine. Vraiment à Félicien, je crois, Félicien de Kinshasa, qui nous dit vous allez à l'hôpital, on vous exige d'abord l'argent avant tout acte médical, avant de poser tout acte médical. Et puis il a l'impression qu'on paye un peu trop au niveau des hôpitaux, mais il n'y a pas assez de résultats. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Antoine?
Voilà, mais je pense qu'en fait, c'est le nœud du problème, il est là, au niveau des hôpitaux, partout ailleurs d'ailleurs, hein, mais y compris en Europe, c'est le financement de fonctionnement d'un hôpital, un financement qui doit être décidé au niveau national, avec des axes clairs, un projet, qu'est-ce que nous voulons faire d'un tel niveau d'hôpital, qu'est-ce qu'on peut soigner, qu'est-ce que ça coûte donc, et qu'est-ce qu'on leur met à disposition pour faire ce travail. Lorsqu'aujourd'hui nos compatriotes franchissent, parce que j'ai fait aussi l'expérience, en allant à tel ou tel centre ou hôpital, en arrivant on vous demande l'argent, déjà, une fois j'ai demandé, mais pourquoi vous demandez l'argent? On m'a répondu, mais docteur, nous n'avons pas de financement, nous n'avons pas d'enveloppe pour tourner, donc nous devons demander de l'argent, sinon si on ne le demande pas au premier, le deuxième quand il viendra, il trouvera rien. Donc il y a aussi une gestion là en fait d'entreprise. C'est vrai qu'il y a un service entre guillemets qui est donné, pour le coup la santé c'est un service très important, mais il a un coût. Ce service. Je crois qu'il faut qu'on ait le courage de dire aux gens, à nos compatriotes et donc à nos gouvernants, que ça a un coût. Mais le gouvernement, ils le savent. C'est à probablement aux décideurs de mettre en place un système, ce qu'on appelle les systèmes de santé, donc le financement de ces travaux, de façon que les gens, la personne qui franchit la porte, où il a déjà une couverture de maladie, mais ça c'est un autre débat, de sécurité sociale.
Donc une assurance.
Une assurance qui va prendre en charge, donc il n'a pas à avancer de frais. Ou il n'a pas d'assurance, ben, il va avancer des frais, mais avec un tarif qui est clair, mais qui dit tarif, dit aussi prestation derrière. Qu'est-ce qu'il attend de ses travaux? Quand on a payé pour quelque chose, comme il le disait, on est en droit d'attendre les résultats. Il faut qu'il y ait un système de contrôle, en fait. Beaucoup de choses, chez nous, et je n'insulte personne en les disant, il y a une espèce d'abandon. Il n'y a pas de contrôle, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un auditeur posé la question sur des centres de santé qui pilulent partout. Effectivement, quelqu'un peut s'installer comme ça, je crois que c'est M. Symphorien qui évoquait cela, peut mettre son panneau, voilà, il a quelques médicaments, il ouvre son ligablo, c'est ça.
D'ailleurs, bon nombre des médecins les font aussi. Ils prestent dans les institutions publiques, mais après, ils ont leur centre, et chaque fois, ils détournent même les malades pour les envoyer dans leur centre privé.
Exactement. Dites-moi, si vous employez quelqu'un chez vous, dans une entreprise, vous dites, voilà, je vous embauche, vous allez travailler de 8h à 16h, vous aurez tel salaire par mois. Et donc, pour avoir ce salaire, vous devez être là tous les jours de 8h à 16h. Si vous lui payez le salaire que vous avez convenu, il est obligé, vous l'obligez d'être là de 8h à 16h. Là où ça va poser problème, c'est où vous vous engagez pour une somme, mais vous ne lui payez pas son salaire, et à un moment, vous vous sentez obligé de les laisser partir plus tôt. Donc au départ, il vient de 8h à 10h, de 8h à 13h, et ça dégrade les services. Donc les gens créent des centres à l'extérieur, alors qu'ils sont censés être peut-être dans tel hôpital, de telle heure à telle heure, pour prendre en charge les malades. Et donc quand le malade arrive, le médecin est parti, il est pris en charge peut-être par son assistant ou une infirmière, vous imaginez que la prise en charge n'est pas la même. Il y a beaucoup de choses à tout le plan de la prise en charge médicale. Nous devons revisiter notre système de santé au Congo.
Comment améliorer la prise en charge médicale dans les hôpitaux? On en parle avec Dr Antoine Chimpi, spécialiste en gastro-entérologie.
Écho d'économie sur Radio Okapi. La vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment améliorer la prise en charge médicale dans les hôpitaux? Docteur Antoine Chimpi est spécialiste en gastro-entérologie, il est notre invité et sachant que depuis plusieurs années, il est directeur médical dans un hôpital en France et puis dans lequel il a contribué à réduire en 3 ans un déficit cumulé de près de 5 millions d'euros tout en renforçant les effectifs médicaux. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à atteindre ces résultats?
Ah ben, c'est quelque chose de simple. Comme ferait tout père de famille dans sa famille ou un chef d'entreprise, si vous gagnez, je prends toujours des chiffres ronds et pour être simple pour les auditeurs, si vous gagnez $100 par mois, si vous, quand vous faites votre budget, vous devez le faire en fonction des $100. Vous n'allez pas faire un budget en fonction de $300 alors que vous ne gagnez que $100. Vous allez dire ben, $10, j'exagère, hein, $10, je paye le petit déjeuner pour mes enfants, $20, je paye le loyer, $20, je mets du carburant. Au total, vous avez vos $100. Vous devez être à l'équilibre. Ils arrivent, effectivement, ou parce que votre salaire n'est pas suffisant, ou parce que peut-être aussi que vous avez élargi, trop grossi vos besoins au-delà de ce que vous gagnez, vous allez être en déséquilibre. Et donc, vous allez être en déséquilibre, vous gagnez que $100, mais vous dépensez $200, $300, et donc, dans une entreprise, ça veut dire vous créez un déficit. Ben, un hôpital, c'est comme une entreprise, c'est vraiment quelque chose que j'ai martelé pour les gens qui organisent les systèmes de soins. L'hôpital doit être vu comme une entreprise, mais une entreprise en mettant l'homme au cœur de ses services. Évidemment, l'aspect humain doit primer, mais si nous n'organisons pas très bien les choses. Aujourd'hui, on ouvre une clinique privée qui est tout pimpant neuf, mais si on n'entretient pas son équilibre financier, dans un an, cette clinique ne marchera plus. Et donc, qui est perdant? Mais c'est le patient, parce qu'on a de bons services au départ et après, ça dégringole. Oui. Donc, cet hôpital dont j'avais hérité en fait la présidence de la commission médicale, donc le directeur médical, était en déficit depuis 10 ans. C'est-à-dire, d'année en année, il est en déficit. Quand les collègues m'ont sollicité, parce qu'on est élu, on n'est pas nommé directeur médical, vous êtes élu par vos pairs, et vous avez un mandat des 5 ans renouvelable. Et là, vous donnez, vous dites, écoutez, on est en déficit, c'est tout simple. On va voir, on va acheter ce dont on a besoin. Quand vous demandez 2 rames de papier, vous devez être sûr que vous avez besoin de ces 2 rames de papier. Quand vous demandez, vous avez besoin de tel nombre de cartons de Doliprane pour soigner les gens, vous en avez besoin. Il n'est pas question de commander quelque chose alors que vous en avez dans le stock et il est en train de pourrir, vous voyez. Et donc quelqu'un commande, un autre contrôle, et en face, nous savons que nous avons affaire à des patients. Et les patients, pour les soigner, je disais au début de l'émission, il faut des médecins. Il faut des médecins qualifiés. Il faut des gens qui sont compétents dans des domaines que vous fixez. Oui. C'est ce que je fais. Et en quelques années, j'ai pu embaucher 14 exactement, de collègues médecins dans deux domaines différents parce que j'avais fixé l'objectif médical, qu'est-ce qu'on voulait développer. Et donc, les soignants, les infirmières et soignantes conséquentes avec compétence.
Et le déficit a été résorbé en 3 ans.
En 2 ans et demi.
Voilà. Alors, pourquoi ne pas partager votre expérience avec ceux qui gèrent aussi les hôpitaux ici à RDC.
Exactement. En tout cas,
par rapport à la gestion.
Tout à fait. J'ai pas voulu aller trop en détail parce qu'on n'aurait peut-être pas assez de temps. Je suis moi-même vice-président de l'association des anciens de la faculté de médecine de Kinshasa. Une association qui s'est constituée à 4 ans, qui s'est réunie une fois par an en novembre. Et l'année dernière, nous avons échangé, effectivement, avec quelques équipes du ministère, la santé, pour voir un peu comment améliorer la gestion au niveau de nos hôpitaux. Je pense que ces échanges sont très importants pour que l'argent, le $15 ou les 15 000 francs congolais que le gouvernement met pour l'hôpital, soit réellement utilisé pour l'hôpital, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. pour vous et moi. Mmh. Voilà.
Et il voilà. Y a Ismaël qui a posé la question de savoir, l'hôpital est un lieu des pauvres, d'après lui, et, mais il a l'impression que si les hôpitaux qui prennent mieux en charge, on prend mieux en charge les personnes qui ont des moyens. Mmh. D'ailleurs, dans certains hôpitaux, vous trouvez un espace qu'on dit VIP. Mmh. Alors, ça, c'est pour les nantis, ceux qui ont des moyens, et puis voilà, les restes, c'est de l'autre côté.
Eh ben, j'aimerais dire à Ismaël que l'hôpital vraiment devrait rester un sanctuaire pour nous tous, pauvres ou riches. C'est un endroit où, lorsqu'on est malade, on devrait être pris en charge de façon équitable. Je vais vous donner un exemple. Si vous faites un paludisme, si vous faites une hépatite virale, le traitement d'un paludisme est le même que vous soyez riche ou pauvre, selon les degrés de votre paludisme. Le traitement à l'hépatite virale C va être le même, le médicament, que c'est riche ou pauvre. Là où ça pose problème, effectivement, c'est l'accès à ces traitements. Mmh. Et en tout cas, je pense que c'est à nous tous, à chaque Congolais, parce que, vous savez, c'est un peu facile pour nous de dire toujours, voilà, les gouvernants, tout ça. Nous tous, nous devons contribuer à bouger les lignes, oui. À faire prendre conscience à tout le monde que, pauvres ou riches, nous ayons droit aux soins de façon équitable. Je pense même que c'est constitutionnel. Mmh. Et lorsque vous franchissez, même en France, en Europe, il y a des hôpitaux publics et des hôpitaux privés. Il y a un point qui est important, c'est que le soin prodigué pour telle ou telle maladie, pour tel patient, doivent être le même.
La qualité des soins est la même.
Il y a une négligence des qualités pour toute structure hospitalière. Je pourrais y revenir moi-même, parce que, vous voyez, les hôpitaux publics, mm-hmm. en France, sont contrôlés tous les 5 ans. Ça s'appelle une certification. Je viens de faire une deuxième édition, donc en 10 ans. Tout hôpital sait que tous les 5 ans, il y aura une équipe constituée par des gens du ministère, du monde médical, des experts du domaine des usagers, c'est-à-dire des gens X, Y, qui viennent contrôler la qualité et la prise en charge des patients. C'est un bon matériel, c'est un bel outil pour améliorer la qualité de la prise en charge dans chaque hôpital. Et ceci est possible, y compris chez nous au Congo.
Bien sûr. On va accueillir deux autres auditeurs. Georges Mukinda et Tamanono, Robert Batolé à Kindu. Georges, bonjour.
Bonjour, Georges.
Bonjour aussi à notre invité, Monsieur Antoine.
Bonjour, Georges.
Bon. On vous écoute.
Est-ce que ce n'est pas les problèmes de manque de prise en charge par les infirmiers qui ont la part des dégradations dans les hôpitaux? Je prends par exemple le dossier fourni à un infirmier qui revenait là où il était pas pour recevoir de l'argent. Et puis, j'ai un peu de lui poser la question. Il m'a dit que j'ai réussi seulement 7000 francs par mois. Alors, je voudrais demander à l'invité si avec un tel infirmier qui reçoit 7000 francs par mois, est-ce qu'il peut parvenir à occuper bien le malade? Pour la deuxième préoccupation, il y a des problèmes, et ce n'est pas juste, c'est un problème général, sinon un RDC. Vous trouvez dans les hôpitaux, avant les traitements, on oblige de l'argent. Soit pour les gens qui sont au village, on oblige. Si vous n'avez pas l'argent, quand vous déposez les vélos, après les traitements, vous allez récupérer. Alors, j'aimerais demander à l'invité qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer cela. Et pour terminer, j'aimerais demander à l'invité pourquoi il a préféré faire une structure sanitaire en France selon un élève. Voilà tout le monde.
D'accord, merci. Robert Bataoulé de Kindu, bonjour. Robert, bonjour.
Bonjour à l'invité.
Bonjour Robert.
On vous écoute.
Ok. Ma question est celle-ci. Par rapport à la formation que l'invité a connue, qui est-ce qui peut créer une structure médicale et quelles sont les conditions à remplir pour qu'une structure médicale soit créée?
Parce que une culture médicale,
une structure. Il y a certaines gens qui créent des structures médicales, mais étant profane à la matière, nous ne savons pas quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir pour créer une structure médicale. Et aussi savoir. Parlons de la prise en charge des malades, donc des patients, mais il faut également parler de la prise en charge du personnel médical. Toutefois que le personnel médical n'est pas pris en charge, vous trouverez que dans notre système médical, il n'y aura pas un soin de qualité. Alors, c'est ça quelques interventions que j'avais à demander à l'invité. Merci.
D'accord. Merci. Revenons aux questions des auditeurs. Arnaud de Mangoyo de Kinshasa vous a posé la question de savoir qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui de l'automédication. Il a constaté que c'est devenu l'automédication a pris de l'ampleur. Les gens, dès qu'on tombe malade, on a un peu la fièvre, on préfère aller directement à la pharmacie, acheter les médicaments au lieu d'aller consulter.
Mais c'est l'accès aux soins. Et là, il résume bien les choses. Lorsque L'accès aux soins est facile, ouvert à tous. Les gens, lorsqu'ils ont un mal de tête qui ne passe pas après la prise en charge, prise d'un médicament, ils vont consulter facilement. Lorsqu'ils peuvent payer cette consultation ou ils peuvent être pris en charge au niveau hospitalisation ou en consultation, vous y allez. Je crois qu'on tourne autour du même problème de l'accès aux soins de qualité. Mmh. Et je pense que lorsque les gens ne peuvent pas, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une attitude qui est très dangereuse, très dangereuse. C'est qu'ils vont essayer de le traiter eux-mêmes avec diverses façons médicales modernes, voire non modernes. Et puis, un jour, lorsqu'ils se rendent vraiment compte que ça ne va pas, ils vont consulter. Il y a 4 jours, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai vu, je vais donner un exemple simple, une jeune patiente de 52 ans qui avait un peu de sang, qui a du sang un peu à la selle lorsqu'elle va à la selle. Elle a consulté en janvier, donc il y a plusieurs mois, et on lui avait, il avait consulté en janvier, mais il avait déjà traîné 3 mois. Et en janvier, elle a fini par consulter, et là, on lui a parlé d'hémorroïdes. Donc, elle a appliqué des suppositoires. Une première cure de 10 jours, elle allait bien, elle a arrêté, et quand ça a recommencé, elle a recommencé à appliquer des suppositoires pareil. Puisque j'ai eu le même symptôme, donc j'ai fait le même traitement. Donc je l'ai vu la semaine dernière, parce que les symptômes persistaient. Cette jeune femme de 52 ans que j'ai vue a une maladie grave à l'entrée de l'anus, qui s'appelle un cancer du rectum. L'examen clinique a duré, allez, je vais vous dire, pour faire le diagnostic, ça n'a pas pris une minute. J'ai pas eu besoin d'appareil pour faire le diagnostic. Et là, 52 ans, ces dames, vous voyez, elle a quelque chose en fait qui draine depuis avant janvier, puisqu'elle a perdu 3 mois avant. C'est important pour une maladie cancéreuse, parce qu'elle peut faire ce qu'on appelle des métastases déjà, c'est qu'il peut gréver sa maladie, alors que le petit cancer du rectum peut être opéré, traité définitivement. L'automédication peut aller à des choses très graves. Vous avez des douleurs de l'estomac, ça brûle, vous prenez du Malox, Gaviscon, une fois, si ça ne passe pas, il faut voir un médecin. Parce que derrière, on peut avoir une maladie beaucoup plus grave, qui peut vous coûter votre vie. Et donc, elle a raison. Je pense que c'est à nous tous les Congolais, aux décideurs, de faciliter cet accès aux soins, et donc de mettre les moyens qu'il faut, y compris financiers.
Oui. Voilà, on va accueillir Dr Marcel Kazadi de Lubumbashi. Docteur, bonjour.
Bonjour docteur, bonjour chers confrères.
Bonjour à l'invité, c'est Dr Marcel Kazadi, je vous appelle à partir de Lubumbashi.
Enchanté, bonjour.
On vous écoute.
C'est moi que l'émission nous a plus, surtout que je suis dans le domaine. Alors, je viens de constater que les médecins se trouvent devant plusieurs difficultés pour arriver même à nous.
Oui, docteur Kazadi, la liaison n'est pas très bonne, on vous entend pas très bien. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça peut améliorer les choses.
Oui, je suis en train de me déplacer. Est-ce que vous m'entendez maintenant bien?
Oui, assez, là, très bien. Assez bien, oui, allez-y.
Ah, ok, ça me dit.
Non, désolé docteur. Désolé, on ne sait pas vous entendre parfaitement bien. Bon, peut-être essayer de nous rappeler avec notre téléphone. Revenons à Mao Vakala qui nous a appelé de Matadidi. Il vous pose la question de savoir qu'est-ce qui explique la différence des facturations entre les hôpitaux, les privés et les hôpitaux étatiques.
Tout à fait. Alors, la différence, encore une fois, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire un hôpital privé qui s'installe va acheter du matériel et va se donner une ligne de conduite. Il va dire, voilà, moi, lorsque je reçois, je connais quelques structures ici, quand je reçois des patients, je veux moi-même mettre à disposition les médicaments, je veux mettre à disposition les examens qui peuvent faire le laboratoire, la radiologie, et donc, je vais mettre ça peut être un forfait, ou alors un montant, qui est toujours sur base des prestations qu'ils décident de mettre à disposition des patients. Voilà. Et lorsqu'on franchit la porte d'une structure privée, on doit avoir cette information, d'abord du tarif, et savoir ce qu'on va faire, et donc donner son accord, son assentiment pour la réalisation. L'hôpital public à côté, on l'a évoqué, c'est ce problème de moyens qu'on lui donne et pour fonctionner au quotidien ou à l'année. Il va peut-être mettre des prix un peu moins élevés, mais on lui donne des objectifs peut-être qui sont au-delà de ce qu'on lui donne comme subvention ou comme allocation. C'est ça la dualité qu'on doit arriver à résoudre.
Mais est-ce que nos hôpitaux ne peuvent pas s'autofinancer?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Je pense qu'il faudra même y arriver.
Oui.
Il faudra, comme on fait en Europe, on en a parlé tout à l'heure, un hôpital produit un revenu. Il produit des rentrées d'argent par les consultations, les laboratoires, les radiologies qu'il fait, les opérations. Il génère des revenus.
Oui.
C'est à lui de faire un budget. Quelle est son activité annuelle? quelle est sa branche de fonctionnement, qu'est-ce que ça lui coûte en dépenses, c'est à lui de voir de façon à arriver sur ce qu'on appelle un exercice équilibré, un budget d'équilibre. Mais ils génèrent des finances, ils le font ici. Actuellement, probablement, lorsque les gens payent, il y a une partie qui va peut-être dans la poche de tel ou un tel, ça ne rentre pas dans la caisse de la structure hospitalière. Ouais. Donc ce n'est pas utilisé pour la rénovation, pour l'entretien de matériel, pour la paye des salariés. C'est un problème global, mais je pense qu'il va falloir...
Il y a des hôpitaux où quand vous allez docteur, les toilettes sont tellement sales que les malades peuvent même attraper d'autres maladies.
Tout à fait. Oui. Ça s'appelle les quelque part, je ne sais même pas s'il faut appeler ça une maladie nosocomiale. Oui. Les maladies, vous savez, qu'on attrape, on arrive à l'hôpital, on ne l'avait pas, on arrive parce qu'il y a une mesure d'hygiène. N'ont pas été impeccables, on va attraper une maladie qu'on va ramener à la maison d'infection nosocomiale. Mmh. Eh bien, c'est dangereux, c'est grave. On a des structures ici, il y a le ministère de la Santé, il y a le conseil de l'ordre de médecins qui va s'assurer que tel ou tel est compétent et habilité à exercer la médecine chez nous. Mmh. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'on remette en ordre, qu'on remette en place pour notre pays. Ça n'a que trop duré et c'est dangereux pour nous tous.
Voilà. Un auditeur, on va terminer avec la question d'un auditeur qui vous dit pourquoi vous avez préféré aller créer un hôpital en France au lieu de le faire ici à RDC.
Alors, voilà, mais c'est très bien. Sinon, j'aurais reponné à dire, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler. Oui. Non, mais en fait, nous avons besoin dans ce monde, plus aujourd'hui d'ailleurs qu'hier, on est mondialisé maintenant. Nous avons besoin des échanges, nous avons besoin d'aller voir les autres équipes, comment ils fonctionnent. Quelquefois, les formules, on ne va pas les inventer. Il y a d'autres. Le problème que nous avons aujourd'hui, d'autres pays, à leur époque, ont eu ces problèmes-là. Eh bien, c'est d'aller voir comment ils ont fait. Vous savez, actuellement, on parle beaucoup d'Inde. Je vais répondre à votre question de l'Inde, qui envoie des structures ici, ou alors des patients congolais, avec des filières établies, qui vont se faire soigner en Inde. Mmh. Eh bien, j'ai visité quelques hôpitaux en Inde il y a 3 semaines de cela, avant de revenir ici. 3 semaines, et j'ai visité 5 ou 6 hôpitaux en 4 jours. L'Inde, il y a une trentaine d'années, avait connu des problèmes presque comme nous aujourd'hui. Il faut voir comment ils ont procédé. À un moment, ils ont d'abord refusé l'état de fait, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Et puis deuxièmement, dire comment nous faisons pour nous organiser. On se met tous autour d'une table, voilà, comment on fait pour organiser l'hôpital public au Congo. Et le ministère doit avoir un plan qui doit être clair, un projet dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comment nous voulons que nos systèmes de santé fonctionnent. Et puis, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de sélectionner des collègues formés, et donc encore en Inde, les médecins, les soignants, et ils sont partis chercher le médecin indien expert qui était à l'étranger. En leur demandant, voilà, qu'est-ce que vous faites dans votre domaine? Nous manquons de ça au pays. Voilà au pays qui en a la compétence, mais il n'a pas de possibilité de le faire. Est-ce que vous pouvez vous voir ensemble, nous proposer des projets? J'ai vu donc des hôpitaux en Inde où ils ont fait revenir les Indiens, les enfants du pays. Qui étaient à l'étranger. Et je peux vous dire que les Congolais experts, il y en a beaucoup au Congo et il y en a beaucoup à l'étranger. Ils font le bonheur des autres pays, alors que pour la plupart de ces gens-là, comme moi, nous avons étudié le col primaire. C'était au frais de notre pays, le Congo. Et aujourd'hui qu'on est productif, on produit pour les autres pays. Ils ont fait revenir, j'ai visité des services. Par exemple, un petit service qui m'a vraiment ébloui. En 7 ans, ils ont développé un service qui font des transplantations du foie. C'est-à-dire quand vous avez un foie qui est devenu malade, qui ne tient plus, on peut vous l'échanger, on le fait en Inde. Et ces services sont devenus des services d'excellence. Ce qui fait que les gens de pays voisins, ils vont se faire soigner en Inde. Et ça génère des devises pour l'Inde. Et ça devient le tourisme médical produit même de l'argent chez eux. Alors faites attention, ils ont aussi des hôpitaux, comme nos hôpitaux en difficulté ici. Mais ils ont de plus en plus des centres d'excellence que nous pouvons mettre en place au Congo. Je pense qu'il faut vraiment de la volonté et c'est faire violence ensemble. Il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou un tel.
D'accord. Merci docteur Antoine Nchimpi. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gastro-entérologie et vous êtes directeur médical d'un hôpital en France. Et vous avez dit, maintenant, vous êtes revenu au pays pour travailler.
Depuis 15 jours, je suis revenu, définitivement.
D'accord. Voilà. Bienvenue et bon retour au pays. Et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci aux éditeurs.